Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Est-ce qu'on fait des personnages de nos chansons des modèles à suivre? Mais ici, tout le monde écoute des narcocorridos. Et ce n'est pas parce qu'on écoute cette musique qu'on va empoigner une arme et tuer des gens.
Les narcotrafiquants sont peut-être dehors la loi, des tueurs, des assassins, mais dans certaines régions, au Mexique, ils sont vénérés et on en fait donc des chansons. C'est le cas autour d'El Chapo par exemple. Emmanuel Steele nous fera découvrir ses chansons à la gloire des narcos, sous les radars. Et Hélène Roussel, vous l'avez entendu au Brésil notamment et en Thaïlande. Le Monde selon Trump et Grégory Phillips avec un président, des démocrates et un milliardaire qui se paye de la pub. Et puis Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four qui a vu cette gigantesque manifestation de 150 000 personnes à Prague ce week-end contre la corruption. Avant, c'est en Turquie que nous allons. Le Monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Qui conquiert Istanbul conquiert la Turquie. Et donc, on imagine qu'il n'aime pas trop qu'on lui répète cette phrase, Erdogan, puisque c'est lui-même qui l'avait prononcée lorsqu'il a gagné Istanbul il y a de ça de nombreuses années. Bonsoir Ahmet İnsel.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes chroniqueur, notamment au quotidien Kumurli, Kumuruku, allez-y.
J'étais chroniqueur.
Vous étiez,
eh
bien voilà. Vous êtes auteur de La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive totalitaire. C'était publié aux éditions de La Découverte en 2017. Je le disais, écrasante défaite du candidat Erdogan, au fond. Une grosse, comment on appelle ça? C'est une grosse claque, c'est une baffe
une
monumentale.
Une grosse claque, mais en même temps, c'est une claque qu'ils se sont donnée à eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont annulé les élections alors que le candidat d'opposition avait gagné avec très très peu d'écart. Et avec des arguments fallacieux, ils ont fait annuler les élections. Et là, cette fois-ci, l'écart est énorme, puisque c'est 9 points d'écart. Et évidemment... Dans la précipitation, d'ailleurs, on voit bien que ce résultat était presque anticipé par le pouvoir les derniers jours. Le candidat de Tayyip Erdogan n'a pas attendu les résultats, il a accepté tout de suite.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement 13 000 voix d'écart, c'est ce qu'il y avait la dernière fois, c'est ce qui avait justifié ce recours.
Sur 8,5 millions de voix,
800 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet écart monumental, désormais, il vient d'où en fait?
Il y a probablement deux voire trois mouvements. D'abord, il y a eu un report des électeurs du candidat de Tayyip Erdogan vers le candidat d'opposition parce qu'ils étaient mécontents de cette suppression non justifiée, non justifiable des élections. En Turquie, il y a une très forte légitimité accordée aux élections, aux urnes. Évidemment, les élections ne se passent pas dans des conditions égalitaires, etc. Tout ça, c'est vrai, c'est pas une démocratie. Mais il reste un dernier carré démocratique en Turquie, c'est que il faut respecter les résultats des urnes. Et là, les électeurs de...
C'est pour ça qu'il y a des fiefs Erdogan qui ont voté massivement.
En tout cas, il y a eu un glissement dans les fiefs, dans certains arrondissements. Mm-hmm. Alors que le 31 mars, sur 39 arrondissements, 25 étaient, AKP étaient majoritaires. Là, ils ont perdu sur les 25 plus de la moitié de leur majorité. Et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la mobilisation. Mm-hmm. Une plus grande mobilisation à la marge, c'était 83,7% de la participation. Là, il est passé à 84,5%.
En tout cas, ça veut dire que personne ne s'est démobilisé, à minimum.
Personne ne s'est démobilisé. Tous ceux qui étaient partis en vacances, parce que ce sont des élections qui n'étaient pas prévues, les gens étaient en vacances, sont revenus. Les Kurdes se sont mobilisés massivement. Et puis, il y avait aussi, à la marge, peut-être 50 000, 100 000 personnes qui, 31 mars, n'étaient pas allées voter en disant « ça sert à rien ». Alors que là, il y avait un enjeu très important.
Mais du coup, le message qu'Istanbul envoie à Erdogan, est-ce qu'il parle de sa gouvernance? Est-ce qu'il parle de sa personnalité? Est-ce qu'il parle de sa gestion? Est-ce qu'il parle de tout ça à la fois?
Je pense que de tout ça à la fois. D'abord, de sa personnalité, parce que İmamoğlu, en reportant leur voix sur İmamoğlu, ils ont voté à une personnalité politique diamétralement opposée dans sa posture, dans son discours, dans son sourire, à Tayyip Erdogan, qui est devenu vraiment un peu le père fouettard dans l'image. Deuxièmement, la crise économique est là, c'est vrai. Parce que déjà, ils avaient perdu le 31 mars dans des villes comme Ankara, dans des grandes villes, à Istanbul aussi, pour la première fois, en fait, ils avaient perdu. Là, ils ont une claque supplémentaire. Donc, il y a une crise économique qui s'aggrave. Et puis, le troisième facteur probablement qui a joué, c'est qu'il y a une usure du pouvoir. Et usure du pouvoir que nous constatons depuis à peu près 2 ans, puisque Tayyip Erdogan gagne toujours ric-rac, rappelez-vous référendum.
Bien
c'était
sûr,
tout juste.
Ouais.
Et en plus, avec un peu de manipulation. Mmh. Il est passé président de la
République. Mais à chaque fois, il passe. À chaque fois. Parce que je me souviens, on en avait parlé ensemble, même
exactement,
au moment du référendum.
Il passe chaque fois.
À chaque fois, ça passe quand même.
Mais la seule ce qui a changé aussi, c'est que cette fois-ci, il y a eu en face de lui, non pas deux, trois candidats qui sont en compétition face à son candidat, un candidat derrière lequel les Kurdes, la droite libérale, les républicains, la gauche socialiste, tous se sont mis dans un front unique.
Et alors, on va y revenir, mais quand même, ce Akram İmamoğlu, personne ne le connaissait avant.
Non, c'était un illustre inconnu. Oui.
Propulsé subitement comme opposant en chef, est-ce qu'il a vraiment les épaules? Et au fond, est-ce qu'on sait s'il a les épaules d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on sait finalement
d'abord,
de ce monsieur?
Il était maire d'un arrondissement, avant d'être... il est élu en 2014, maire d'arrondissement. Il avait gagné sur AKP déjà. C'est une personne qu'on a découvert, sincèrement, on a tous, nous avons tous découvert ce personnage, mais il a fait un parcours sans faute. C'est d'abord très calme, ce qui rassure l'électorat. Deuxièmement, très déterminé, souriant. Il représente un peu la classe moyenne centriste. Il n'est pas de gauche fortement, mais il est laïque, mais croyant, pratiquant, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Tayyip Erdoğan, en faisant annuler ces élections.
C'est lui qui a propulsé İmamoğlu.
Je pense que c'est lui
fait.
Qui a propulsé İmamoğlu comme le candidat potentiel contre lui.
Mais est-ce qu'on sait s'il a envie de ça,
Akram
İmamoğlu?
Nous ne savons pas. Mais parfois on est conduit malgré soi. Vous savez, dans ce genre de choses, on rentre dans un sentier et après le retour est quasiment impossible. Mais effectivement, dans un premier temps, les choses ne vont pas être très simples parce que Tayyip Erdoğan dispose quand même pas mal de biscuits. D'une part, la possibilité de étouffer la municipalité d'Istanbul, l'enquiquiner juridiquement en trouvant des noises à droite et à gauche dont il est capable de le faire. Évidemment, la bataille ne sera pas simple.
On va revenir là-dessus, Ahmet İnsel, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on aille faire un aller-retour justement à Istanbul. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Fabienne.
C'est vous qui avez suivi tout ça pour nous, pour France Inter, Eric. Je voudrais que vous nous avez parlé, vous nous avez décrit l'atmosphère dans les rues, vous étiez dans le camp du vainqueur hier soir. Est-ce que on parle d'un réel tournant là où vous êtes? Est-ce que les gens avec lesquels vous avez échangé disent oui, ça y est, on est passé à autre chose, c'est la fin d'une époque? Est-ce que c'est ça qu'on dit autour de vous ou pas?
Alors on le dit, mais on le dit doucement. Alors le sentiment hier soir à Istanbul, c'était d'abord une certaine incrédulité dans le camp du vainqueur, bien sûr. Même si tout le monde se doutait bien qu'Ekrem İmamoğlu risquait d'arriver en tête des suffrages, d'ailleurs tous les sondages, y compris ceux commandés par le pouvoir, le prévoyaient, nombreux étaient ceux qui se disaient que le clan Erdoğan allait trouver une parade, un nouveau truc pour torpiller le résultat. Et c'est vrai que le précédent du mois de mars, l'élection d'İmamoğlu annulée sur un motif des plus spécieux, avait de quoi inquiéter. Ce n'est en fait qu'à 19h15, lorsque l'adversaire d'İmamoğlu, l'ancien premier ministre Binali Yıldırım, a reconnu sa défaite, une défaite cette fois sans appel, 550 000 voix d'avance au moins, que les soutiens d'İmamoğlu ont commencé à y croire, à se lâcher et à manifester bruyamment leur enthousiasme dans les quartiers où traditionnellement on vote pour le parti d'İmamoğlu, le CHP, Beşiktaş sur la rive européenne du Bosphore, Kadıköy sur la rive asiatique. On a fait la fête dans la rue jusqu'à une heure avancée de la nuit, embouteillage monstre, concert de klaxon, foule dans les ruelles qui reprenaient en chœur les vieilles chansons politiques de la gauche ou du parti kémaliste. En fait, plus que la victoire d'Ekrem İmamoğlu, c'est surtout la défaite de Recep Tayyip Erdoğan, la première vraie claque électorale depuis 17 ans, qui était encensée par ce public hier soir.
Mais alors justement, Eric, c'est la question qu'on posait à l'instant avec Ahmet İnsel. Qu'est-ce qu'il fonde ce personnage qui vient d'arriver sur la scène politique, Ekrem İmamoğlu, les gens là où vous êtes? Qu'est-ce qu'on fait de ce personnage? Est-ce qu'on lui donne les clés, en quelque sorte, de l'opposition désormais? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est lui qui est sur ce chemin-là et c'est lui qui va devoir faire ce chemin-là face à Erdoğan? Qu'est-ce qu'on dit du monsieur désormais?
Ben, on apprend un petit peu à le connaître. Ahmet en parlait il y a quelques minutes. İmamoğlu, c'était un parfait inconnu en mars quand il avait déjà remporté le scrutin de la municipale une première fois. Il a paradoxalement en fait bénéficié de l'annulation de son élection, une sorte d'oukase du pouvoir qui à vrai dire est très très mal passée, jusque dans les rangs des sympathisants d'Erdoğan eux-mêmes. C'est injuste ce qui lui arrive, c'est ce qu'on me répétait dans les quartiers les plus conservateurs d'Istanbul ces derniers jours. Alors l'homme, İmamoğlu, porte beau, il parle bien, il fait plutôt jeune, souriant, décontracté, ce qui tranche quand même pas mal mâle avec la mise de la classe politique turque en général et des caciques du pouvoir erdoganien en particulier. Il ne se départit pas d'un certain flegme, ne répond pas aux calomnies et aux provocations lancées par ses adversaires et vante la concorde. Là aussi, c'est un discours plutôt neuf en Turquie et qui a su séduire. Alors son programme pour Istanbul est clairement social, aide aux démunis, accent budgétaire mis sur l'éducation, la facilitation des transports. C'est simple, ça plaît. Pendant les 10 jours durant lesquels il est resté assis dans le fauteuil de maire avant que son élection soit annulée en avril, il a réussi à faire baisser de moitié la redevance d'eau d'Istanbuliotes. La mesure n'était pas tout à fait passée inaperçue, vous en doutez. Quant à prendre la tête de l'opposition, alors là, ça en doute, c'est sans doute une toute autre histoire. Hein. Le CHP, le Parti Républicain du Peuple, dont il émane, est structuré de manière assez rigide. C'est pas lui qui organiserait par exemple une primaire pour désigner son champion pour la future présidentielle. İmamoğlu a toutes les chances de demeurer simplement à sa place, assis dans le fauteuil de maire d'Istanbul. Mais avec un budget annuel de quelques 5 milliards d'euros à dépenser, c'est déjà pas si mal.
Et merci à vous, Éric Biegala. Bon retour. Ahmet İnsel, vous avez en partie répondu, mais j'aimerais bien qu'on insiste un peu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand une ville est prise à la capée, en fait? La marge de manœuvre, au fond, parce que c'est ce que disait Éric, hein, c'est une espèce de Turquie condensée, Istanbul. Donc, quand on prend une ville à la capée, qu'est-ce qui se passe? En quoi on a vraiment les coudées totalement franches?
Il n'aura pas les coudées totalement franches parce qu'il n'a pas la majorité au conseil municipal déjà. Donc, la capée dispose de la majorité au conseil municipal. Mais peut-être que la capée va aussi évoluer. Il risque d'y avoir des scissions dans la capée.
C'est déjà le cas, non? Nationalement, en tout cas.
Ils annoncent. Mmh. Ils annoncent probablement des scissions dans la KP et ces scissions peuvent aussi avoir des répercussions dans le conseil municipal et İmamoğlu peut disposer, en ce cas-là, d'une majorité plus large. Mais le système municipal en Turquie qui a été mis en place aussi est présidentialiste. Mmh. C'est-à-dire que le maire élu directement dispose des capacités de contourner son conseil municipal d'une manière presque antidémocratique. Donc, du coup, İmamoğlu va peut-être aussi utiliser cet avantage, mais il y a aussi la possibilité par le pouvoir central de empêcher les investissements, de freiner les transferts de fonds, de refuser l'endettement, etc., etc. En revanche, İmamoğlu va aussi disposer, Éric Biegala a souligné ces 5 milliards d'euros parité de pouvoir d'achat, c'est deux fois plus en Turquie. Mm-hmm. Et ces 5 milliards d'euros, évidemment, à une manne financière que contrôlait AKP, qu'il ne peut plus contrôler comme autrefois pour avoir des relations clientélistes, pour utiliser du personnel payé par la municipalité, mais qui travaille pour les organismes de AKP. Et peut-être İmamoğlu va sortir aussi certains dossiers qui ne sont pas très propres parce que AKP est au pouvoir à la municipalité d'Istanbul depuis 25 ans sans interruption.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une forme de répression, justement, de la part de l'AKP? Quand on essaye de mettre des bâtons dans les roues pour éviter que, au fond, l'administration et la ville fonctionnent bien, c'est aussi une manière de faire. Erdogan n'a jamais eu peur de le faire dans le passé.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'il peut y avoir des choses comme ça aussi, comme une espèce de revanche, un chien de ma chienne vis-à-vis d'Istanbul?
Probablement, il peut y avoir une revanche, une tentative de revanche. Probablement, il va y avoir aussi des négociations, parce que probablement İmamoğlu aussi va avoir des biscuits de négociation par rapport à tout cet entourage clientéliste de AKP qui dépend de la municipalité. Et peut-être là, il va y avoir un certain marchandage. Mais n'oublions pas, il n'y a pas que Istanbul qui a été perdu. Hein. Il y a d'autres villes, les grandes villes ont été perdues par AKP. Donc du coup, effectivement, Istanbul est un peu une ville phare, mais il va falloir que Tayyip Erdoğan travaille maintenant avec une partie des grandes villes de la Turquie échappe à son contrôle.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a désormais une vraie opposition structurée?
Non.
Ou est-ce qu'au fond, elle tient le temps d'une élection, mais elle va voler en éclats demain ou après-demain?
Je ne pense pas qu'il va voler en éclats parce que nous avons, pour le moment, s'il n'y a pas des élections anticipées, etc., nous avons des élections en
2023.
Maintenant, 2023, juin 2023. Donc, il y a du temps. Donc, pour ces élections, donc, du coup, le front peut continuer, mais effectivement, l'opposition s'est unie comme une opposition contre Erdoğan. Mais ce n'est pas une opposition pour un projet politique, pour un projet économique commun. Donc, du coup, tant que Tayyip Erdoğan va attaquer les municipalités, cette opposition va continuer probablement. Mais de là à transformer cette opposition en un projet politique gagnant, c'est encore trop tôt pour en parler.
Juste une dernière question, puisqu'on en reparlera tout à l'heure dans le journal de 19h. Est-ce que cette situation peut changer des choses au procès qui s'ouvre là en ce moment?
Oui.
Les mouvements de Gezi, le fameux mouvement de Gezi.
Alors ce matin...
Première audience.
Ce matin, la première audience a eu lieu. Contrairement à ce qu'on s'attendait, mon ami Osman Kavala et les autres ont été immédiatement, ont commencé à faire leur défense et l'attitude du tribunal était plutôt magnanime, je dirais. Donc du coup, on peut espérer que le vent tourne un peu et que Tayyip Erdogan comprend aussi que la répression ne paye plus. Peut-être nous pensons que, en tout cas, nous sommes en Turquie très très contents pour.
Il y a peut-être un coup à jouer pour les organisations des droits de l'homme autour de ça.
Les organisations des droits de l'homme étaient sur place. Il y avait une vraie mobilisation de l'Union européenne et des chancelleries européennes. Mais effectivement, je crois qu'il est encore important que la pression politique, l'exigence de droits de l'homme et essentiellement de l'état de droit soit mis en place. D'autant plus que la Turquie est en crise économique et la Turquie a besoin de soutien financier international.
Ahmet İnsel, politologue, votre dernier ouvrage, je le rappelle, s'appelle « La Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire ». C'est publié à La Découverte. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Mexique. Vous découvrirez un genre musical étonnant qui chante les louanges des narcotrafiquants sous les radars et Hélène Roussel avec notamment l'immense Marta, joueuse de foot brésilienne. Le Monde selon Trump et Grégory Philips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Beaucoup de choses chez vous aujourd'hui, oui. Grégory, notamment un plan de paix qui ressemble pas à grand chose, on va le dire comme ça.
Oui, oui, plan de paix pour Israël-Palestine, le volet économique de ce plan sera dévoilé demain. Il y a aussi la situation iranienne avec de nouvelles sanctions. Et puis, côté politique, les démocrates qui sont en course maintenant pour l'investiture avec leur premier débat cette semaine à Miami en Floride.
Allez, à tout à l'heure Grégory, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four dans un instant également avec cette manifestation qui a rassemblé 250 000 personnes à Prague. Preuve que l'envie de transparence dans cette partie de l'Europe est très importante. À tout de suite. Donc, le tour de la planète continue. Il passe par la Grande-Bretagne avec un quart de Beatles, figurez-vous. George Harrison, Got My Mind, c'est à nous. My mind set on you, nous dit George Harrison sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars signés, Hélène Roussel, comme tous les jours. Hélène, 12 ados coincés pendant 18 jours dans une grotte. Le monde entier avait suivi l'histoire de leur sauvetage. C'était l'an dernier en Thaïlande.
Oui, même un an pile, un jour pour jour hier. Vous vous souvenez de ces jeunes, tous membres d'un club de foot, les sangliers sauvages, descendus avec leur entraîneur dans la grotte en pleine mousson. L'eau est montée, évidemment, et ils vont donc survivre pendant plus de 2 semaines, agrippés sur un coin de rocher. Jour et nuit, des milliers de spéléologues et de volontaires vont se relayer pour finir sur cette image. Des adolescents qui sortent de la grotte les uns derrière les autres, endormis sur des civières de plongée. Une seule victime dans l'histoire, un sauveteur qui avait plongé pour apporter du matériel dans la grotte et qui n'est jamais remonté, un héros dans le royaume. Depuis, même si la grotte de Tam Luang est toujours fermée au public, des centaines de personnes viennent tous les jours prier devant sa statue. Et hier, pour la cérémonie, les ados rescapés étaient tous là, comme ce jeune garçon interviewé par France 24. Ce jeune homme dit son émotion de revenir sur les lieux. C'est indescriptible, dit-il. Ma vie a beaucoup changé. J'ai eu tellement d'expériences après être sorti de la grotte. Et ben oui, ces jeunes sont des héros depuis. Et ils vont même devenir des stars mondiales dans une super production Netflix. Faut dire que le scénario est quasiment déjà écrit. C'est du tout cuit, comme on dit. Mais en Thaïlande, tout le monde n'apprécie pas. Vern Unsworth, c'est un spéléologue britannique, l'un des tout premiers à avoir découvert les jeunes dans la grotte. Lui, ça ne choque pas trop. Écoutez, il s'est confié à Euronews.
Certains disent qu'ils ne méritent pas la célébrité, mais il faut leur reconnaître le mérite d'avoir survécu 18 jours. Peu d'enfants auraient réussi à survivre comme ils l'ont fait. Nous leur devons le respect pour cela.
Il y aura donc une série Netflix, Les sangliers sauvages font les taupes. Ce sera un bon titre, ça, non? Enfin, moi, personnellement, je trouve. Bon, en attendant, série ou pas série, la Thaïlande, elle n'est pas prête d'oublier. 5000 Thaïlandais, quand même, ont couru hier un marathon de charité autour de la grotte, en espérant un jour la voir rouvrir. Est-ce vraiment nécessaire? Ça, c'est une autre histoire, me direz-vous.
Bien, sinon, retour en Mauritanie. On y était déjà jeudi dernier avec les descendants d'esclaves plus que discriminés, on s'en souvient.
Eh bien oui, et vu le résultat de la présidentielle, eh bien les choses ne risquent pas de bouger beaucoup. Hein. Le parti anti-esclavagiste arrive encore une fois en deuxième position, mais deuxième, ça ne sert à rien. C'est donc le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, qui a été élu. 52% des suffrages dès le premier tour. Les opposants ont manifesté et ont été réprimés hier soir, quelques blessés. Mais voilà, c'est donc un général qui remplace un général et la Mauritanie sera bien gardée.
Allez, gros plan sur Martha pour finir.
Elle a
Martha.
33 ans. Vous dites, Fabienne, qu'elle ressemble à la mère de Daya, pour ceux qui connaissent la série Orange.
Mais oui, j'ai tweeté ça hier. Elle s'appelle Elisabeth Rodriguez. Allez voir sur Internet, c'est frappant.
Et c'est vrai hein, qu'elle n'a pas l'air commode, la Martha, numéro 10 du Brésil. Mais savez-vous que c'est une légende vivante, une star du foot mondial, une idole dans son pays, élue 6 fois meilleure joueuse de la planète. Alors, elle a sans doute vécu hier soir les dernières minutes de sa carrière en Coupe du Monde, battue, vous le savez, 2-1 par la France, éliminée en 8e de finale. Martha, encore en crampon sur la pelouse, au micro de la télé brésilienne, lance un cri d'appel à la jeune génération. On la retrouve aussi d'ailleurs dans la presse aujourd'hui, au Globo par exemple. Il faut en vouloir plus, dit-elle. S'entraîner plus, être prête à jouer autant que possible. Formiga n'est pas éternel, Martha non plus, Christiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça, pleurer au début pour sourire à la fin. Elle a les larmes de rage dans les yeux, Martha, le poing serré. Pas besoin d'image, on la voit, rien qu'à l'écouter.
Le football féminin dépend de vous pour survivre. Donc pensez nisso, valorisez mais. Chorez no começo pour sourire no fim.
Même si on ne parle pas portugais, on entend la force et l'émotion hein, dans la voix. En tout cas, les jeunes brésiliennes sont prévenues. Va falloir prendre le relais un peu mieux qu'hier et travailler dur surtout.
Allez, Martha Vieira da Silva, donc rendons-lui son nom de famille aussi. Parce que c'est vrai que les brésiliennes,
on ne donne que les prénoms.
Leur prénom dans le dos. Vous absolument, super championne. En tout cas, merci beaucoup Hélène Roussel, et à demain.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Mexique que s'arrête l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, ce que vous entendez là, c'est un Narco Corrido, une chanson qui relate les aventures, souvent violentes, des narcotrafiquants, un genre musical qui est encore très en vogue dans l'état du Sinaloa, d'où sont originaires les plus célèbres barons de la drogue. C'est le terrain de Joaquim Guzman, c'est le terrain d'El Chapo, qui connaîtra le mois prochain finalement la sentence du tribunal à New York où il a été déclaré coupable théoriquement de narcotrafic. Bref, on verra ça à ce moment-là. Bonsoir Emmanuel Steele.
Bonsoir Fabienne.
Sauf que El Chapo, donc, même s'il risque la perpétuité aux États-Unis, reste ici, chez lui, ultra populaire. Les narcos font partie intégrante de la société. La culture populaire en est imprégnée, d'où les chansons.
Un narcotrafiquant s'évade de prison et affronte les militaires au lance-grenade. Il meurt et devient une légende dans ce narco-corrido qui relate ses faits et gestes. C'est la famille du défunt qui a commandé cette chanson au groupe Colt, cinq jeunes musiciens qui perpétuent la tradition des narco-corridos à Culiacán, la capitale de cette région du nord du Mexique.
Aquí los corridos
Ce genre musical, c'est ce qui nous donne du travail, expliquait Brielle, le guitariste de Colt. Lorsque le groupe décroche des contrats pour des fêtes privées, c'est surtout pour jouer des narco-corridos. Mais d'après Brielle, contrairement à ce que pensent les Mexicains, ces chansons ne font pas l'apologie du crime ou de la violence.
Como modelos a seguir.
Est-ce qu'on fait des personnages de nos chansons des modèles à suivre? Eh bien, ça dépend de la personne qui l'écoute, de la distance qu'elle est capable de prendre. Mais ici, tout le monde écoute des narco-corridos. Et ce n'est pas parce qu'on écoute cette musique qu'on va empoigner une arme et tuer des gens.
C'est en vain que les autorités mexicaines ont tenté d'interdire les narco-corridos, explique Ana Hilda Mondaca. Cette chercheuse de l'université de Culiacán étudie ce mouvement musical depuis plus de 20 ans. Elle considère les narco-corridos comme les épopées d'aujourd'hui avec une plus grande dose de réel que de fiction.
Hay narco-corridos porque hay narcotráfico.
Les narco-corridos existent parce que le narcotrafic existe. On ne peut pas les ignorer. Ces chansons racontent tout ce qui survient dans les milieux du narcotrafic. Et de manière explicite. Les narco-corridos ont une valeur en tant que récit, en tant que document. C'est une plongée dans l'univers des cartels et on y trouve toutes les nouvelles qui ne sont pas publiées dans les médias traditionnels.
Los narcos ya tienen muchos fans.
Wulfrano Moreno, alias El Lobito de Sinaloa, est un chanteur vétéran. Après 24 ans de carrière, il a renoncé au narco-corrido car il a vu trop d'artistes se faire assassiner pour leurs chansons. Il considère que les jeunes musiciens d'aujourd'hui, aveuglés par leur fascination pour les narcos, ne sont pas conscients des risques du métier. Mais ce chanteur reconnaît qu'il y a quelques années, il a lui-même accepté une offre qui ne pouvait se refuser.
J'ai enregistré une chanson pour les fils du Chapo. C'était il y a longtemps. Ils m'ont attendu à la fin d'un concert et ils m'ont demandé de leur composer un corrido. Ils m'ont demandé mon prix, j'ai dit $5,000 et l'affaire était conclue. Après, ils m'ont fait passer le message, la chanson leur avait plu. Le titre s'appelle « Les deux héritiers ».
Au Sinaloa, où le narcotrafic est ancré dans la culture locale, la population vit dans une forme de complaisance vis-à-vis du crime organisé. Bien sûr, tout le monde n'écoute pas des narco-corridos ou ne manifeste pas dans les rues de Culiacán pour réclamer la libération d'El Chapo, comme c'était le cas il y a quelques mois. La majorité garde le silence, d'après Ana Hilda Mondaca.
Ici, on a tous, ou presque tous, un voisin narco. Un voisin ou un membre de sa famille ou une connaissance. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir, entendre et se taire. Et que l'on accepte ou non, on ne peut pas s'opposer ouvertement.
L'un des endroits les plus visités de Culiacán est la chapelle de Jesús Malverde, surnommée le saint patron des narcos. Ce n'est pas une chapelle en tant que telle, mais un bâtiment rectangulaire aux murs vitrés qui abrite une multitude de petits autels colorés et d'offrandes dédiées à ce personnage mythique. À la lumière des bougies, on observe les bustes du fameux Malverde aux cheveux noirs luisants, à la petite moustache, la chemise blanche impeccable. Sous l'influence des narcos, le culte de ce Robin des Bois local, qui vécut à la fin du 19e siècle, s'est popularisé. Pour les prières qu'il aurait exaucées, des messages de remerciement sont gravés sur des plaques ou griffonnés sur des billets de banque accrochés au mur. Aujourd'hui, en plus des narcos, n'importe qui vénère Jesús Malverde, explique cette habitante de Culiacán. À l'extérieur de la chapelle, les vendeurs de souvenirs présentent le succès du moment, les statuettes à l'effigie d'El Chapo. Dans le sillage des nombreuses séries télévisées consacrées au baron de la drogue, il y aurait une véritable mode narco. C'est en tout cas ce que pense Ismael Bojorquez, le directeur de l'hebdomadaire Rio Doce, spécialisé dans les enquêtes sur la corruption et le narcotrafic.
Cette mode génère de l'argent. Netflix fait de l'argent avec ses séries. Et bien sûr, personne ne se demande comment éviter de contribuer à cette fascination pour les grandes figures du narcotrafic. Ils font de l'argent et cela ne leur importe guère d'être mêlés à cette fascination croissante, à la nouvelle notoriété des grands barons de la drogue ou au fait que les jeunes aspirent à devenir de futurs chapos.
Au Sinaloa, les jeunes sont facilement attirés par le style de vie criminel. À Culiacán, il existe un endroit qui en témoigne, les jardins d'Umaya, le cimetière connu comme étant celui des narcos. Des travées entières sont occupées par des mausolées fastueux et des temples tape à l'œil. Et les dates montrent que la plupart des occupants sont morts alors qu'ils ne dépassaient pas la trentaine. C'est un cimetière de jeunes, un endroit paisible, mais qui reflète la violence de cette narcoculture.
Emmanuel Steele au Mexique pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Et tiens, voilà un qui fera plaisir à Grégory Phillips qui arrive juste après. Bruce Springsteen, le boss, Hello Sunshine. Springsteen, version 2019.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Hello Sunshine, Bruce Springsteen sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Grégory Phillips arrive juste après sous vos applaudissements, bien sûr.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Ès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, Grégory? Franchement.
Merci beaucoup. Bah, elle est très bien, cette programmation.
Bah, oui, elle est parfaite. On embrasse Djoubaka, qui est sûrement est ravi pour vous aussi. Allez, l'actualité chez vous, évidemment, Grégory, c'est ce bras de fer avec l'Iran. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de Sébastien Paour. On y reviendra demain dans Un jour dans le monde. Comme quoi, on est cerné. Et puis, il y a aussi demain, à Bahreïn, la présentation du plan de paix américain pour le Proche-Orient. En tout cas, le volet économique pour l'instant, Grégory.
Oui, pour le volet politique de ce plan américain, il faudra attendre le mois de novembre après les élections israéliennes et après la formation d'un nouveau gouvernement. Demain, donc, c'est le volet économique. Ça fait 2 ans que le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, travaille à ce document censé amener la paix au Proche-Orient. On en saura plus demain, mais en gros, l'idée, c'est de noyer les Palestiniens sous des milliards de dollars. On avance le chiffre de 50 milliards sans qu'on sache pour l'instant quel compromis les États-Unis vont leur demander en échange. En tout cas, Fabienne, tout ça n'a pas l'air, comment dire, très bien parti, puisqu'Israël n'a pas été invité à cette conférence de Bahreïn et l'autorité palestinienne la boycotte. Bref, rendez-vous demain à Manama, la capitale du Bahreïn, et on verra bien comment ça se passe.
Allez, cette semaine, en tout cas, chez vous aussi, c'est la semaine des candidats démocrates à l'investiture pour 2020. Premier débat après-demain soir, mercredi soir.
Oui, en fait, ce sera même 2 débats, tous les 2 à Miami en Floride, le premier mercredi soir, le second jeudi soir. Les organisateurs ont retenu 20 candidats, il y a eu un tirage au sort. Le premier débat, hormis la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, c'est un peu la deuxième division. Les poids lourds sont plutôt dans le deuxième débat, celui de jeudi avec Bernie Sanders, Joe Biden et Kamala Harris. Trump, lui, a déjà choisi son adversaire. Il l'a dit, c'était hier sur NBC dans l'émission Meet the Press, avec une petite blague, vous allez l'entendre, sur l'après 2024.
Je préférerais affronter Biden. C'est lui mon favori.
Pourquoi ?
Sleepy Joe la soupie. Hillary, elle, n'était pas endormie.
Vous avez blagué sur la possibilité d'un troisième mandat ?
C'était juste une blague. Dans un discours récemment, j'ai dit « Regardez, on va les rendre fous, les journalistes. En route pour un troisième mandat et un quatrième. » Et certains médias ont dit « Il va le faire. »
Bon, juste rappeler, Fabienne, que le 22e amendement de la Constitution américaine limite à 2 le nombre de mandats que les présidents américains peuvent effectuer.
Allez, c'est toujours bon à rappeler. Ce qui va être bien avec ces débats, Grégory, quand même, c'est qu'on va parler programme, peut-être, enfin ?
Oui, c'est vrai que cette vingtaine de candidats, eh ben, ils commencent à détailler un peu le contenu de leur programme. Vous avez par exemple le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui vient de proposer d'effacer totalement la dette des étudiants américains. Vous savez, évidemment, c'est énorme, environ 1600 milliards de dollars, 45 millions d'Américains ont dû faire un crédit pour leurs études. Comment compte-t-il procéder ? Eh bien, en taxant Wall Street. Elizabeth Warren a fait une proposition à peu près du même ordre. Et si vous voulez y voir plus clair sur les propositions détaillée de chacun de ces candidats démocrates, eh bien le site Politico a fait vraiment un très beau travail recensant 50 points précis et vérifiant la position de chacun des candidats sur l'avortement, l'éducation, la santé, etc. Je vous ai mis le lien sur mon compte Twitter.
Eh bien formidable, on ira regarder ça, Grégory. La campagne électorale, évidemment, qui se joue à coups de millions de dollars, ça on le sait, comme ceux que vient de dépenser ce milliardaire. Il s'appelle Tom Steyer et il a décidé de se payer Donald Trump et il le fait à coups de millions.
Oui, alors on avait déjà un peu parlé ici de ce milliardaire new-yorkais viscéralement anti-Trump, Tom Steyer, qui a fait fortune dans les fonds d'investissement. Alors lui ne se présente pas à l'élection, mais il dépense une partie de sa fortune en achetant des publicités à la télévision. Je vais vous en faire écouter une tout de suite, mais devinez sur quelle chaîne et dans quelle émission le spot est passé tout ce week-end et encore ce matin.
Chez Fox, tiens.
Eh oui, voilà. Évidemment, Fox News et dans l'émission Fox and Friends, évidemment, c'est le moyen le plus direct pour toucher le président. Voici un extrait.
Right now. Donald Trump is committing crimes in the open.
But we're fighting all the subpoenas.
Not an interference. They have information. I think I'd take it.
He cited. Voilà, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, le président a commis un crime d'obstruction à la justice. Ça parle évidemment de l'enquête russe et du procureur Mueller. Et Tom Steyer appelle à la destitution de Donald Trump. Alors évidemment, cette hypothèse est très, très, très lointaine et très hypothétique. Mais en tout cas, moyennant 700 000 dollars, eh bien, Steyer a pu faire passer le message ce matin sur la chaîne favorite et dans l'émission préférée du président.
Voilà, sinon, Grégory, donc, on se retrouve à Miami. Peut-être, non, vous nous raconterez ces 2 débats démocrates, on entendra...
Mercredi et jeudi, on sera en Floride pour vous raconter ça.
Exactement, peut-être qu'on aura une meilleure idée de celui ou celle qui affrontera Donald Trump en 2020. Puis on vous retrouve tout à l'heure à 19h dans le journal de Sébastien. À demain, enfin non, la semaine prochaine. Enfin bref.
Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Rappelez-moi comment je m'appelle, Jean-Marc Four. Vous
bonsoir,
êtes là,
Fabienne.
Le monde à l'envers. On a peut-être un peu tendance à croire que tout l'Est de l'Europe, Jean-Marc, se résume à la Hongrie de Viktor Orban et à ses atteintes à l'état de droit. En tout cas, on parle beaucoup de lui, mais il y a aussi, dans quasiment tout l'Est du continent européen, un mouvement démocratique profond dans les sociétés civiles qui se traduit par d'énormes manifestations contre la corruption. Un dernier exemple en date, c'était hier à Prague, en République tchèque, et c'est votre monde à l'envers.
Il faut imaginer une marée humaine qui a envahi hier les rues de Prague. Plus de 200 000 manifestants, de l'aveu même de la police, sans doute plus. C'est énorme pour un pays comme la République tchèque. Prenons la mesure de cette manifestation. C'est l'équivalent d'1 200 000 manifestants dans les rues de Paris. Jamais le pays n'avait connu pareil et rassemblement depuis la révolution de velours, il y a 30 ans, en 1989, juste après la chute du mur de Berlin. Et tous ces manifestants, drapeau tchèque ou européen à la main, étaient réunis hier pour réclamer la démission du Premier ministre. Andrej Babiš, c'est son nom, est vivement soupçonné de conflit d'intérêts. Il aurait détourné à son profit des millions d'euros de subventions européennes destinées à une grosse entreprise agroalimentaire, dont Babiš était aussi le patron jusqu'à l'an dernier. Ça s'appelle le Nitsigoin, l'affaire du nom d'une ferme ultramoderne qui est au cœur de l'opération. Et la Commission européenne réclame à Babiš de rembourser 17 millions d'euros. Il faut préciser que le Premier ministre, c'est aussi la deuxième fortune du pays. Il n'a pas l'intention de bouger d'un iota face aux manifestants. Il a nommé une nouvelle ministre de la Justice qui fait barrage à toute procédure judiciaire le concernant. Donc il est probable qu'en face, la contestation se poursuive. Elle ne cesse de grossir depuis plusieurs semaines. Les manifestants disent simplement vouloir le retour aux valeurs démocratiques de 1989.
Et il y a donc d'autres exemples du même genre dans les autres pays de l'Est.
Il y en a de plus en plus. Et à chaque fois, le processus est à peu près le même. Dans le pays voisin de la République tchèque, la Slovaquie, ça a démarré de la même manière. Des défilés à répétition contre la corruption du gouvernement, mis en évidence l'an dernier par l'assassinat du journaliste Jan Kuciak. Ça a conduit à un premier résultat. La victoire surprise à la dernière présidentielle en mars d'une nouvelle venue, Susana Caputova, une militante des droits de l'homme pro-européenne. Plus à l'est, en Roumanie, même topo. Manifestation en Syrie contre le président de la Chambre des députés et homme fort du pouvoir, le social-démocrate Liviu Dragnea. Il a fini par être incarcéré pour corruption le mois dernier dans une affaire d'emploi fictif. Et les Roumains, par référendum à 85%, ont interdit l'amnistie pour les faits de corruption. On peut continuer l'inventaire dans les Balkans, la Serbie et le théâtre depuis plus de 6 mois de rassemblements qui dénoncent l'autoritarisme du pouvoir et la corruption des dirigeants. Manif encore avant-hier dans les rues de Belgrade. Même chose dans le petit Monténégro voisin et même plus à l'est en Ukraine, où le récent triomphe électoral du comédien Volodymyr Zelensky s'est construit sur la dénonciation de la corruption aussi. Il y a donc bien dans la quasi-totalité de l'Est de l'Europe un mouvement profond pour plus de transparence.
Et donc ça, c'est plutôt rassurant en fait.
Oui, d'autant qu'on parle de mobilisation spontanée, sans vrai leader, sans structuration politique réelle. D'ailleurs, il y a un fait révélateur, la mobilisation ne dépend pas de la couleur politique du dirigeant visé. Ici, c'est un populiste de centre-droit en République tchèque, là un social-démocrate de centre-gauche en Roumanie. À chaque fois, c'est la même motivation, assez de la corruption des élites, de la confusion entre intérêts publics et intérêts privés. C'est une lame de fond démocratique, en particulier dans les villes et chez les jeunes, une sorte de révolution tranquille, parce qu'en plus ce sont des manifestations pacifiques. On est très loin, oui, en effet, de la caricature qui résume l'Est de l'Europe à la Hongrie, avec un sous-entendu du style, vous savez, oui, ces populations qui ont vécu sous le joug soviétique sont incapables de se convertir à la démocratie. C'est faux. En fait, c'est peut-être à l'inverse la Hongrie qui est l'exception, avec des manifestations assez faibles contre le pouvoir. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'en Hongrie, Orban a totalement verrouillé l'information. C'est la particularité hongroise. Tout de même, il n'y a qu'un seul son de cloche, puisqu'Orban contrôle la quasi-totalité des médias, directement ou indirectement. Faut-il le rappeler, la liberté de la presse et l'aspiration démocratique sont indissociables.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On reste ensemble pour le téléphone sonne. Ne bougez pas.